Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. Important incendie hier sur les hauteurs de Saint-Étienne. Stupeur et colère à Villeurbanne où on découvre qu'un ancien instituteur de maternelle a été condamné pour détention et importation d'images pédopornographiques. La succession à la tête du défenseur des droits fait polémique. La justice somme la mairie de Vau-en-Velin de retirer le drapeau palestinien. À Lyon, la police municipale teste les postes mobiles. Et puis nous rendrons également au 53 rue Sidoine Apollinaire dans le 9e, la nouvelle adresse de Bobby Réemploi. Reportage complet dans cette édition.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un important incendie s'est donc déclaré hier soir à Saint-Étienne. La colline du Guizet a été touchée par les flammes. Le feu s'est déclaré hier soir aux alentours de 21h sur les hauteurs de la colline. Un site naturel et très boisé qui surplombe l'agglomération stéphanoise. Attisé par le vent et des températures encore proches de 30 degrés en fin de journée, les flammes ont rapidement dévoré plusieurs hectares de végétation. Une cinquantaine de sapeurs-pompiers ont été immédiatement mobilisés pour mener une attaque rapide et empêcher le feu de se propager vers les habitations. Les secours restaient sur place cette nuit pour surveiller les fumerolles. Stupeur et colère à Villeurbanne, un ancien instituteur de maternelle ayant enseigné plus de 20 ans dans la commune, notamment aux écoles Lazare Goujon et Ernest Renan, a été condamné en début d'année à 6 mois de prison avec sursis pour détention et importation d'images pédopornographiques. L'homme a été radié de l'éducation nationale et banni à vie de toute activité avec des mineurs. Mais pour les parents, c'est le choc. Ils ont appris la vérité que très récemment, au détour de couloir, après avoir cru pendant des mois à un simple burn-out de l'enseignant, fin 2023, face au silence de l'Académie de Lyon qui estime qu'une telle situation n'a pas à faire l'objet d'une communication officielle, les familles se sentent trahies et réclament de la transparence pour pouvoir interroger et protéger leurs enfants. Sous la pression, le rectorat a fini par déployer une cellule d'écoute début juillet. Elle sera reconduite à la rentrée de septembre. Soulagement et offensive immédiate pour le Rassemblement National après la décision de la Cour d'appel de Paris dans l'affaire des assistants européens. Dans le Rhône, les élus locaux basculent déjà en mode présidentiel. Pour les cadres locaux, l'éligibilité est retrouvée de Marine Le Pen et face des mois d'incertitude. Certes, le parti disposait d'un plan B avec Jordan Bardella, mais le scénario idéal était le retour de celui du binôme complémentaire. Jonathan Géry, député de la 8e circonscription du Rhône, fustige une affaire qu'il qualifie de corne-cul et dénonce une tentative d'ingérence de la justice dans la démocratie. Malgré la menace d'un examen rapide du pourvoi en cassation avant 2027, la patronne de la fédération locale, Tiffany Joncourt, assure que rien ne freinera leur dynamique. La succession à la tête du défenseur des droits fait polémique. Emmanuel Macron propose d'y nommer le sénateur LR du Rhône, François-Noël Buffet, un choix qui passe très mal auprès de la gauche et du monde associatif. Une pétition initiée par Amnesty International, la CGT ou encore la CIMAD rassemble déjà près de 110 000 signatures. Syndicats et associations dénoncent le profil jugé trop conservateur du parlementaire. Ses opposants politiques rappellent ses positions passées, son opposition à la PMA pour toutes, sa participation à la manif pour tous ou son souhait de réduire l'aide médicale de l'État. Son sort est désormais entre les mains du Parlement. Les associations appellent les élus à exercer leur contrôle démocratique et à s'opposer fermement à cette nomination lors des prochaines auditions. La justice somme la mairie de Vau-en-Velin de retirer le drapeau palestinien suspendu samedi au fronton de l'hôtel de ville. Saisi en urgence par la préfecture, le tribunal administratif a estimé que cette initiative portait atteinte grave au principe de neutralité des services publics. Pour les magistrats, les propos du maire de la France Insoumise, Abdelkader Lamar, qui qualifiait ce drapeau d'étendard de la liberté, confirme la portée éminemment politique de l'action. Si la ville refuse de s'exécuter, elle devra payer 100 € d'amende par jour. Le maire ne s'est pas encore prononcé sur le retrait immédiat du drapeau, mais se réserve le droit de faire appel. Du café, des sourires et du dialogue. À Lyon, la police municipale teste un nouveau dispositif de proximité tout l'été, les postes mobiles. Le premier s'est installé hier matin au marché de la Croix-Rousse. Un fourgon, un stand et une dizaine d'agents venus directement à la rencontre des habitants. Ici, pas de répression. L'objectif est de créer du lien. Autour d'un café, les policiers proposent aux passants de remplir un questionnaire sur leur sécurité et répondre à leurs questions. Inspirée de Barcelone ou de Villeurbanne, cette initiative veut incarner une police visible et accessible. Pour l'instant, l'expérimentation se fait à moyen constant sur la base du volontariat des agents. Mais la municipalité écologiste l'assure. Le dispositif sera pérennisé et le recrutement de nouveaux policiers se poursuit. 7 autres rendez-vous sont prévus cet été, notamment ce samedi au marché des États-Unis dans le 8e ou les 14 juillet et 14 août place Bellecour.
Lyon Demain, média agitateur d'idées.
53 rue Sidoine Apollinaire dans le 9e, c'est la nouvelle adresse de Bobby Réemploi, une adresse qui a accueilli un temps les compagnons du devoir. Bobby Réemploi a voulu faire de ses nouveaux locaux une démonstration grandeur nature de son savoir-faire. Sophie Lambert, ingénieure diplômée de l'école centrale de Lyon, cofondatrice de l'entreprise, nous fait visiter les lieux totalement réaménagé, des bureaux à l'espace de stockage en passant par l'atelier de prototypage.
On est parti de zéro, c'était un plateau brut, et on a aménagé donc nos bureaux dans lesquels on a mis en œuvre à la fois des cloisons amovibles de réemploi, du plafond de réemploi. On est parti avec des plafond en contreplaqué bois qui est en fait une chute, un déchet d'emballage d'un fabricant de sol. On a aussi fait du réemploi de câbles électriques. On est un des chantiers pilotes pour une filière de reconditionnement de câbles. En termes ensuite d'équipement, bon, on a mis tout ce qui est luminaire, prise, interrupteur. Il y a aussi les équipements sanitaires qui sont de réemploi, enfin les éviers, les vasques, les WC, et bien sûr tout le mobilier. Nos racks sont en réemploi, les tables, les chaises, et on a aussi les stores intérieurs qui sont de réemploi. Pour finir, on a aussi voulu dans l'entrée faire quelque chose, un petit pas de côté, où on a fait du terrazzo avec des déchets issus du bâtiment. Enfin, comme c'est un très grand bâtiment dans lequel on est et qu'il y a encore des zones en chantier, on a récupéré des débris sur d'autres parties du chantier, donc du carrelage, des tuiles, des briques, qu'on a réintégré dans des moules, et on a ensuite coulé du plâtre pour faire des dalles de terrazzo qu'on a mis dans notre entrée à la place de la faïence.
Est-ce qu'il faut faire des concessions sur le plan esthétique quand on fait du réemploi ?
Alors, il ne faut pas faire de concessions, mais c'est un parti pris esthétique. Donc, nous, ça nous plaît beaucoup. On est très heureuse d'être dans ces locaux et on les trouve très beaux. Après, aujourd'hui, bien sûr, ça dénote un peu par rapport à des bureaux classiques. On n'a pas du faux plafond 60-60 blanc. On a décidé de ne pas mettre de moquette au sol pour garder brut et mettre moins de matière. Enfin, la sobriété matière, c'est un peu la première étape du réemploi. Et donc, ça nécessite esthétique particulière, mais aujourd'hui c'est beau et certains matériaux on ne voit même pas que c'est du réemploi.
Bobby Réemploi accompagne les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre et différentes entreprises du bâtiment et des travaux publics pour les projets de réemploi de matériaux. Un marché en plein essor, mais où il reste beaucoup à faire. Le bureau d'études lyonnais a géré une centaine de projets en 2025 et a contribué au réemploi de 1000 tonnes de matériaux. Anaïs Le Cerf, associée de Bobby Réemploi, est directrice générale.
Alors, on est une équipe de 8 ingénieurs et architectes. On travaille plutôt derrière nos écrans, mais aussi à un tiers du temps, on est sur des chantiers. On visite les matériaux pour trouver ceux qui peuvent correspondre à nos chantiers de construction. Et également, on fait des diagnostics. Donc, on va aller sur un bâtiment, on va le visiter, on va identifier les matériaux qui sont réemployables pour derrière produire un diagnostic réglementaire qui s'appelle le diagnostic PEMD et faire toutes les études qui permettent de concrétiser le réemploi, c'est-à-dire écrire les pièces marché, prévoir des stratégies, faire des bilans carbone et pouvoir proposer aussi à nos maîtrises d'ouvrage des coûts, donc avoir des bilans économiques qui sont réalisés pour prévoir les projets en fait.
Alors vous êtes quoi ? Vous êtes bureau d'études ? Vous êtes maître d'œuvre ?
On est bureau d'études et on est intégré dans les équipes de maîtrise d'œuvre dans les projets d'architecture. Aujourd'hui, on rentre maintenant dans les pourcentages qui sont prévus par les maîtrises d'ouvrage au moment des chantiers. Et on a un rôle un peu particulier parce qu'on fait aussi de la qualification de matériaux. Et dans ces cas-là, on rentre un peu à part dans le schéma de la construction. Et en fait, ça nous permet, nous, de vérifier l'assurabilité des matériaux. Et on s'est retrouvé récemment à faire aussi de la fourniture. Quand les entreprises cherchent des matériaux, nous, on leur propose derrière ce qui est disponible en gisement sur la région.
Alors, ça veut dire que, par exemple, si on réutilise du matériel électrique, est-ce qu'on est assuré ?
Il peut y avoir effectivement des typologie de matériaux qui présente un risque. Donc, par exemple, on va utiliser des disjoncteurs et dans ce cas-là, il faut bien vérifier qu'il y a un niveau de sécurité qui est respecté. Mais dans l'ensemble, la plupart des matériaux en fait ont très peu de risques et on peut donc les réemployer de manière simple. Mais dans le cadre de certains matériaux autres pour lesquels il faut réaliser des vérifications, nous, on a une assurance décennale qui permet de le faire et donc qui est vraiment portée sur la qualification technique. Donc là où nous, on vérifie les performances des matériaux pour les réemployer.
Ces matériaux, comment ils sont sourcés ? Comment vous les trouvez ?
Alors, c'est beaucoup de travail très manuel encore. Donc, nous, on a un gros annuaire qui recense à la fois les personnes qui peuvent reprendre les matériaux et celles qui peuvent en fournir. Donc, on a vraiment, nous, à la fois ce qu'on appelle les repreneurs et les sourceurs. Et on est obligé en fait d'avoir un fonctionnement encore assez manuel, c'est-à-dire on prend le téléphone, on appelle, on vérifie avec un tel si ils ont à disposition du carrelage, du mobilier, des éléments en bois. Et derrière, on essaye de vérifier avec eux si on peut avoir des photos, des éléments techniques, des fiches de matériaux. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le gisement est encore assez éparse. Et du coup, nous, notre travail, c'est de réussir à produire un document unique, justement, où on retrouve les matériaux disponibles.
L'idée, c'est pas de récupérer à tout va et de stocker, parce qu'il faudrait des zones de stockage très importantes. Comment vous faites le choix, alors ?
Alors nous, on fonctionne principalement en flux tendu. Donc on essaye au maximum de limiter le temps de stockage, parce que effectivement, le coût de stockage est très important sur le coût d'un matériau. Donc aujourd'hui, un matériau déposé a une valeur assez faible, alors que la main d'œuvre qui va être nécessaire pour le déposer, puis pour le reconditionner, va coûter beaucoup plus cher. Et si en plus de ça, on met une surcouche de stockage, ça peut pas fonctionner. Donc on fonctionne, nous, en essayant de limiter ce temps de stockage, en réfléchissant à la date de la dépose et en ayant trouvé surtout le projet de réemploi qui peut intégrer le matériau. Donc on fonctionne pas avec une dépose dans le vide. Donc le matériau doit avoir un projet identifié pour être déposé.
Qui s'intéresse au réemploi aujourd'hui, qui est partant pour ce genre d'expérience ?
Je dirais toutes les maîtrises d'ouvrage éclairées, donc qui se rendent compte aussi qu'il y a un véritable levier pour diminuer la consommation de ressources et pour diminuer aussi l'empreinte carbone des bâtiments en faisant appel à des matériaux de réemploi. Et c'est vrai que parfois ça peut être difficile de convaincre un maître d'ouvrage d'investir dans une dépose soignée qui peut avoir un coût plus important qu'une démolition. Mais quand on leur rappelle aussi qu'à terme les matériaux vont être intégrés dans leur futur projet, ça permet aussi de les convaincre. Donc tous ceux qui aujourd'hui se rendent compte que l'élément carbone est essentiel pour faire du réemploi et pour construire sont intéressés et viennent vers nous.
Les prix des matériaux se sont plutôt envolés ces dernières années. C'est pour vous, c'est un argument ?
Oui, on est toujours valorisé dans les temps de crise. Donc à la fois quand les matériaux sont plus chers, à la fois aussi quand ils ne sont plus disponibles. Donc on l'avait vu aussi pendant le Covid. Il y a eu une période notamment où le métal était difficile à trouver et ça nous a permis, nous, de sauver beaucoup plus de matériaux type serrurerie ou structure métal par rapport à d'autres périodes. Les périodes de crise sont favorables au réemploi et le contexte actuel fait qu'on ne va pas vers des scénarios plus apaisés. Donc a priori, on va pouvoir réemployer encore plus.
Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, personnellement, à créer Bobby ?
Du coup, moi, j'ai rejoint mon associé Sophie Lambert qui avait fondé le bureau d'études. J'avais fait de la construction classique auparavant, donc en conception, et j'avais déjà dû, par exemple, dessiner des projets de plateformes industrielles sur des espaces de forêt ou des champs ou des espaces naturels. Et je voyais bien aussi qu'il y avait un gâchis de matériaux qui était réalisé quand on était sur les chantiers. Donc dès qu'il y a une erreur de commande, les matériaux sont mis à la benne. Si jamais on doit faire une réhabilitation, le moindre élément était jeté. Donc j'étais vraiment surprise quand j'ai commencé à travailler par le décalage entre parfois des projets qui s'annonçaient environnementaux, écologiques et la réalité en fait une fois qu'on était sur les chantiers. Donc il y a vraiment eu un déclic aussi de me dire au quotidien j'ai besoin d'être actrice du changement aussi dans la filière du bâtiment.
Parce que la part de matériaux réemployés encore aujourd'hui elle est très faible.
Oui, les statistiques indiquent moins de 1% de tout ce qui est démoli. Dans les faits, le 1% est encore très gros par rapport à la part réelle réemployée. Donc il y a des objectifs qui ont été fixés dans les réglementations, notamment avec l'idée d'atteindre jusqu'à 5% de réemploi en 2028. Mais on en est encore très loin aujourd'hui et les chiffres, pour l'instant, ne suivent pas. Donc c'est pour ça qu'il y a des filières qui ont été créées, que des éco-organismes aussi reçoivent une éco-participation qui est payée sur l'achat de matériaux neufs. Donc comme par exemple quand on achète un frigidaire, donc on paye l'éco-taxe qui permet de financer les fins de vie de matériaux. Et ces différents éco-organismes, eux, ont aidé à financer aussi le développement de nouvelles filières qui aujourd'hui nous permettent d'envoyer des matériaux comme par exemple les équipements sanitaires dans des filières qui sont dédiées ou ils sont nettoyés pour être mis sur les chantiers.
Quel est l'argument qu'on vous oppose pour dire non, on va pas opter pour le réemploi ?
Ça peut être pour des raisons esthétiques. On a des clients qui par exemple ont peur du résultat, qui sont pas prêts à faire en fait autrement, qui ont peur de pas aussi retrouver leur balance économique. Donc il y a un enjeu aussi financier. Donc nous, on est là aussi pour faire ces calculs, vérifier que la balance économique, elle est respectée au moment de la dépose et également dans la création du projet. Donc c'est aussi ce qu'on a voulu faire, nous, dans nos nouveaux locaux, c'est montrer qu'on pouvait faire un chantier avec un coût maîtrisé. Donc on s'était fixé un budget de 85 000 euros qui a été respecté pour faire l'ensemble de notre projet. Derrière, après, on a aussi des freins où les clients ont un sujet de temporalité, parce que déposer prend plus de temps, par exemple, que de démolir. Et également, un sujet parfois de peur sur l'assurabilité et la difficulté. En fait, le fait de faire différent fait que le bureau de contrôle va être plus regardant aussi sur le processus pour déposer un matériau ou pour le réemployer. Et également, les assureurs vont demander peut-être des garanties supplémentaires pour la dommage ouvrage, ce qui fait que certains maîtres d'ouvrage n'ont pas envie de se compliquer la vie sur cet aspect-là. Mais nous, on est là justement pour la leur simplifier.
Et la dernière question, votre personnel 100% féminin.
Oui.
Pour quelle raison ?
Par hasard. On a beaucoup de candidatures féminines. Quand on fait, nous, un processus de recrutement, on a 75% des candidatures qui arrivent qui viennent de femmes. Donc au fur et à mesure des étapes de recrutement, en fait, on perd les éléments masculins. Mais on a déjà eu des salariés masculins et c'est juste aussi le hasard de la vie qui a fait qu'aujourd'hui, ils sont partis dans de l'architecture ou dans des projets personnels autres. Mais on est tout à fait ouverte à la diversité aussi dans le bâtiment. Mais on se rend compte aussi que voilà, on a un voisin maçon, un voisin qui est dans la plâtrerie, qui ont des entreprises en fait où là les effectifs sont plutôt à 90 voire à 100% masculins. Donc c'est aussi une manière de renverser le paradigme du bâtiment et de dire aussi que les femmes ont leur place dans la construction.
Pour rappel, la loi AGEC réglemente la réalisation d'un diagnostic PEMD pour des projets de réhabilitation et de démolition de plus de 1000 m². L'objectif est de quantifier et qualifier les matériaux réemployables pour permettre leur seconde vie. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une prochaine édition.